Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Histoire d'en savoir plus. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer une association primordiale pour la vie chartraine, l'Instrumentarium de Chartres. Alors l'Instrumentarium, je rappelle rapidement, ce sont, disons, quelques-uns parmi les instruments de musique représentés soit dans la statuaire, soit dans les vitraux de la cathédrale de Chartres, qui sont reconstitués tels quels et qui sont amenés à retravailler, tout comme cela se passait au moment où la cathédrale a été construite entre le XIIe et le XVIe siècle. J'ai assez parlé, alors maintenant je voudrais donner la parole à André Bonjour, qui est président de l'association de l'Instrumentarium de Chartres. André, bonjour.
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 Alors, actuellement, vous en êtes à combien d'instruments ?
Alors, actuellement, on en est une quarantaine. Il faut savoir donc qu'il y a 312 représentations. Nous ne faisons pas une collection, nous faisons bien un ensemble. Donc, nous allons finaliser cette année en restituant à nouveau les premiers instruments qui avaient été restitués, mais qui ne tenaient pas compte des dernières découvertes en archéomusicologie. Voilà, donc on en est à une quarantaine. Ça fait que la ville de Chartres possède un ensemble absolument unique en Europe.
Oui, donc en 26 ans, vous avez fait quand même pas mal de travail.
Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement 26 ans, c'est 26 entre le moment où l'idée m'est venue, mais c'est surtout dans les dernières années et depuis 2007 où l'association a pris naissance et s'est réellement développée.
Alors, vous avez accepté de venir aujourd'hui et je vous en remercie. C'est aussi une façon d'annoncer l'apparition de votre premier CD.
Oui.
Le CD s'appelle Instrumentarium de Chartres, ce qui est logique. Et dans ce CD, il y a combien d'œuvres enregistrées à peu près ?
Alors, il y a 15 plages, comme on dit, hein, 15 œuvres.
Oui.
Et il y a un sous-titre important pour nous, c'est les instruments de musique du Moyen-Âge, parce qu'il nous a semblé qu'il était utile de rappeler au grand public que l'instrumentarium de Chartres, c'est d'abord la musique du Moyen-Âge, même si dans la cathédrale il y a des instruments de la Renaissance, et même si sur ce disque il y a quelques œuvres de la Renaissance. Mais Chartres est mondialement connu pour être d'abord une cathédrale gothique.
Alors, ce qui veut dire qu'il y a des œuvres qui datent, que vous avez enregistrées, qui datent du XIIe siècle.
Des œuvres de Fulbert, on commence par le maître.
De Fulbert, et ça va jusqu'au XVIe siècle.
Ça va jusqu'à Josquin des Prez, donc on est jusqu'à la fin et début de la Renaissance.
Oui, ça fait quand même, si je compte bien, 4 siècles de musique.
Facilement, oui. C'est ce que nous présente la cathédrale de Chartres. Mmh. Entre la façade XIIe et le chœur XVIe, on est complètement, nous, dans l'histoire de la cathédrale.
Alors, je vais demander maintenant au maître d'œuvre, si je peux dire, de ce CD. Xavier Terrassa, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le directeur artistique de l'ensemble de l'Instrumentarium de Chartres.
Oui, tout à fait.
Donc, vous avez réuni des musiciens qui ont l'habitude de jouer sur des instruments anciens.
Voilà, qui sont spécialisés hein, dans la pratique.
Dans la musique Moyen-Âge, alors.
Voilà, les musiques du Moyen-Âge et puis la pratique des instruments qui sont assez particuliers du Moyen-Âge.
Alors, je vais dire pour un profane, je me considère comme tout à fait profane. Lorsqu'on voit les instruments de cette époque, enfin, disons tels qu'ils ont été reconstitués d'après ce qu'on peut voir à la cathédrale de Chartres, il y a des instruments, on se demande bien comment ils sonnent, qu'est-ce qui...
Oui, c'est toute la démarche hein, et toute la valeur évidemment du projet de l'instrumentarium de Chartres, c'est de poser la question, étant donné qu'on n'a aucun instrument original, hein, faut le rappeler toujours.
Normal.
Oui, normal ou pas normal, on pourrait en avoir dans les musées, malheureusement on n'en a pas, ou en tout cas qui sont très fragmentaires. Et donc la question c'est effectivement... Que jouait-on ? Comment jouait-on ? Et donc, avec ces instruments, quel type de musique, quel type d'expression on pouvait avoir ? Ça rejoint aussi la question, donc c'est une question très large, hein, de la, de la connaissance, en fait, tout simplement du Moyen-Âge, de notre passé qui est relativement proche en définitive, c'est de savoir ce que c'est aussi un homme, un musicien, donc ben, il y a peut-être 800 ans ou il y a 600 ans, quoi.
Alors là, au point de vue musicien, il y a combien de musiciens qui ont participé à l'enregistrement du CD ?
Alors, il y a les quatre musiciens qui ont été réunis pour les musiciens de l'instrumentarium de Chartres. Donc ça, ce sont les spécialistes, hein, professionnels qui œuvrent. Donc avec Françoise Joannel, qui est spécialiste des cordes pincées, donc tout ce qui est harpe, rote, psaltérion. Il y a Nicolas Sansarla, qui s'occupe des cordes frottées, mais qui également, donc vielle hein, notamment, et qui également joue quelques aux instruments comme le hautbois ou la cornemuse. Il y a Maxime Fiorani qui joue les percussions et puis donc moi-même qui m'occupe à la fois du chant mais également des instruments avant et d'autres instruments. Et puis on a invité des chanteurs, notamment Nicolas Lost hein, qui est le chantre de la cathédrale et qui est un ami également, qui est venu chanter. Et puis trois chanteuses aussi qui officient avec nous dans le chœur médiéval de Chartres, voilà, et donc qui sont Mathilde Lamy, qui sont Florence Dibetta, et la troisième,
Michel Brucker.
Voilà, Michel Brucker.
Si je comprends bien, vous êtes des musiciens, mais dans l'histoire, vous êtes un peu des archéologues.
Disons, on va dire que chacun a son métier, mais c'est vrai que ce projet d'instrumentarium de Chartres, c'est la réunion de plusieurs compétences, c'est évident. Mais les archéologues restent des archéologues. Par contre, de dire effectivement que ça participe de la recherche, oui, puisque c'est ce qu'on demande justement aux musiciens de l'instrumentarium de Chartres, c'est que la recherche, ça commence avant déjà, c'est-à-dire lorsqu'on commande à un facteur un instrument, c'est de se poser la question déjà quel instrument, quelle taille, pour faire quoi, etc. Puisque même s'ils sont excellemment représentés dans l'iconographie chartraine, il n'empêche que ça reste de la sculpture ou du vitrail, donc on n'a forcément pas tous les détails. Donc se poser ces questions-là, et puis ensuite, une fois qu'on a l'instrument, c'est comment je le règle, comment je joue. Donc ça suppose aussi de faire une recherche sur soi-même, c'est-à-dire il faut oser changer de technique, par exemple, ou etc., quoi.
Alors, je vous propose d'illustrer sonorement vos propos et on va commencer, si vous le voulez bien, avec une œuvre de Fulbert de Chartres, Rex Imens Pater.
Rex Imens Pater Pie Eleison Soter
Nous venons d'entendre une pièce de Fulbert de Chartres. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui du premier CD enregistré par l'Instrumentarium de Chartres. Ce CD est en vente au prix de 15 euros, n'est-ce pas André ?
Absolument.
Alors, ce que je voudrais que tu précises, une chose qui me paraît importante, c'est cette fameuse ces fameuses airs du Moyen-Âge à la Renaissance, au XVIe siècle. Il a fallu trouver un endroit pour les enregistrer. Vous pouvez guère les enregistrer dans un salon d'HLM. Alors, qui est-ce qui vous a accueilli pour cet enregistrement ?
Alors, nous avons été accueillis, et très bien accueillis, par la municipalité de Fresnel-Gilmer, dans une petite église, qui a un double avantage. C'est d'abord d'avoir été restaurée joliment, et ensuite d'être un peu isolée du village, ce qui nous a permis d'être tranquille, j'ai envie de dire, pendant 3 jours. Puisque c'est là que nous avons enregistré au mois de juillet.
Vous avez, donc au mois de juillet 2016, vous avez enregistré dans l'église de Fresnel-Gilmer.
Absolument, oui.
Et vous avez été reçu donc par la municipalité de Fresnel-Gilmer.
Ah là, je dois dire que nous avons été chaleureusement accueillis.
Ah mais ça, c'est une chose, je pense, qu'il faut dire et souligner, c'est-à-dire c'est le... En dehors de vos bonnes volontés réunies et tout ça, vous avez aussi des soutiens d'autres personnes qui font ce qu'elles peuvent, mais qui aident à faire avancer les choses.
Bien sûr. Alors, il y a en premier lieu la ville de Chartres. Ça, je crois qu'il faut le rappeler parce qu'ils financent vraiment depuis le début l'ensemble du projet. Et puis, à l'occasion, bien voilà, à l'occasion, par exemple, de cet enregistrement, la municipalité de Fresnel-Gilmer, et en particulier son premier adjoint, puisque c'était notre correspondant, si j'ose dire, ont été vraiment, vraiment accueillants, mis à disposition la salle des fêtes pour nous restaurer, pour pouvoir répéter, pour enfin...
Et en plus, comme tu me dis que l'église est isolée, ça veut dire que vous n'avez pas embêté les habitants.
Alors, nous n'avons embêté personne, puisqu'elle est à côté du cimetière. Mais
là,
c'est
ouais.
Pas...
Les voisins ne sont pas gênés.
Absolument. Il y a eu un petit incident, mais qui s'est très bien réglé. Un cultivateur qui travaillait, après tout. Et on a été le voir tranquillement, gentiment. Il s'est arrêté. Parce que le tracteur, ça fait du bruit pour un enregistrement. Donc là-dessus, je dois dire qu'effectivement, on est... Voilà un exemple.
Disons que je pense que c'est important de dire ça, parce que dans votre entreprise, on peut dire un peu folle, de faire revivre ces instruments du Moyen-Âge qui ont complètement disparu du paysage musical. Si vous n'aviez pas le soutien d'autres personnes qui vous suivent un peu dans ce projet, vous ne pourriez pas aller très loin.
Non, c'est sûr que si d'abord il n'y avait pas, par exemple, des enseignants qui répondaient présents quand on fait des présentations dans la crypte, s'il n'y avait pas des gens qui venaient au concert, et on a découvert avec plaisir qu'il y a des gens, des spectateurs, des auditeurs qui viennent depuis le début à chaque concert et qui tiennent à venir nous remercier, nous féliciter. En particulier de notre ténacité, c'est-à-dire qu'on a commencé avec 6, hein, et aujourd'hui on arrive à une quarantaine.
Oui, c'est-à-dire que 26 ans, vous êtes déjà l'âge de la majorité.
Alors 26 ans, puisque tu tiens absolument à parler de 26, c'est assez amusant parce que 26, c'est le nombre d'instruments différents qu'il y a dans la cathédrale. C'est-à-dire qu'il y a 312 représentations de 26 instruments différents, et majoritairement du Moyen-Âge, puisqu'ils sont... tous représenter les instruments du Moyen-Âge, sauf un, la citole. Et j'en profite pour dire qu'avec plaisir, nous avons participé à la naissance de l'Instrumentarium de Reims, qui est donc une nouvelle association, qui, à Reims, a la chance d'avoir une citole. Voilà. Donc, alors, on avance.
Je reviens à Xavier Terrassa, qui est le directeur artistique de l'Instrumentarium de Chartres. Lorsque vous avez ces instruments, lorsqu'on vous remet ces instruments, vous disiez tout à l'heure, il faut que les musiciens s'adaptent à l'instrument. Il faut aussi que le public, peut-être, s'adapte à l'instrument, parce que je pense que la première fois que le public entend des sonorités sur ces instruments-là, ce ne sont pas les sonorités auxquelles il est habitué.
Alors, en fait, tout dépend de notre exécution, et le mot est... est choisi. C'est-à-dire que si on joue convenablement, je pense qu'il n'y aura pas de surprise de la part du public. Si on joue très mal, oui, là, il risque d'être, il risque d'être choqué. Non, il n'y a pas vraiment de son. Enfin, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la musique du Moyen-Âge. Il n'y a pas de surprise particulière sur les sonorités des instruments du Moyen-Âge, parce qu'en fait, on est quand même... même si la musique traditionnelle a disparu, est revenue, même si les gens la connaissent pas très bien, mais ils la connaissent quand même. Et donc, en fait, on est très proche d'instruments qu'ils connaissent, que ce soit la musique traditionnelle européenne ou extra-européenne.
Alors, il y a une chose qui me frappe quand j'entends, je vous ai entendu plusieurs fois en concert, il y a certaines sonorités, certaines cadences qui sont restées dans l'esprit du public par l'intermédiaire de la musique populaire.
Bien sûr, oui.
Donc, c'est-à-dire cette musique qui était savante au Moyen-Âge, enfin qui se pratiquait dans les cours ou dans un milieu restreint, j'ai l'impression qu'on l'a gardée en mémoire collective, sans même le savoir, à travers toutes les musiques populaires, non?
Exactement. C'est qui se pratiquait dans les cours, mais pas que. Hein, les mêmes jongleurs qui travaillaient dans les cours travaillaient aussi dans les villages et puis propageaient partout la musique. Donc en fait, il y a pas d'exhaustif sur le type de musique. À partir du 14e siècle, là on commence à voir des musiques un petit peu plus savantes, on va dire. Et c'est notamment l'avènement de la bourgeoisie qui va amener peut-être des salons de musique un peu plus raffinés, etc. Donc il y aura peut-être une dissociation entre les types de musique. En tout cas, il n'en demeure pas moins que, effectivement, cette musique, elle est le terreau. Hein. Nous sommes aujourd'hui dans la même civilisation qu'il y a 800 ans. Et c'est vrai que ce qui a été créé à cette époque-là, par exemple, les chansons à refrain, c'est quelque chose qu'on connaît toujours aujourd'hui. Donc ça n'a pas tellement évolué. Ce qui s'est passé avec, par exemple, les premiers troubadours, on est à la fin du 11e siècle, qui commencent à parler d'amour et qui le disent non plus en latin, mais qui en parle en langue donc occitane pour eux, et bien si on considère aujourd'hui là ce qui se passe sur les... Je ne sais pas si sur Radio Grand Ciel vous passez de la pop, mais si vous passiez Lady Gaga, je suis sûr qu'il y a une proximité évidente avec le chant des troubadours, des trouvères, etc. Quoi.
Ah ça, j'avais jamais pensé faire le rapprochement entre les troubadours et Lady Gaga, mais je vous remercie, ça me donne une piste.
Voilà, exactement.
De réflexion. Si vous le voulez bien, nous allons prendre une deuxième pause musicale. Thank you. Nous venons d'entendre une danse du XIIIe siècle, une estampille royale. Comme quoi, dans ce disque, il y a à la fois des œuvres d'inspiration religieuse, des œuvres d'inspiration profane, c'est-à-dire qu'en gestation, il y a toute la musique telle qu'elle a pu évoluer par la suite. Alors, André, bonjour. Je me retourne vers vous. Vous me disiez tout à l'heure, hors micro, que la plupart des œuvres qui ont été choisies pour ce CD que vous venez de faire paraître sont des œuvres de compositeurs, disons, qui ont habité Chartres ou la région, enfin qui étaient proches de Chartres. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, par exemple, les trois premières...
Fulbert de Chartres,
Fulbert de Chartres. Mais on a également, pour nous, Viomont, mais en vie, c'est Pierre de Dreux, celui qui a offert la rose sud de la cathédrale de Chartres.
Oui.
Son fils, Jean Ier, participe à ce qu'on appelle un jeu parti entre Bernard de La Ferté et Jean de Dreux, où ils discutent. Donc, on s'appelle Bernard, à vous lui le demander. On a également la chanson « Tant et à mort » qui est à la harpe, qui est de Guillaume de Ferrières, qui était le vidame de Chartres. Et puis à la fin, une œuvre qu'on entendra tout à l'heure d'ailleurs, « Mater Patris », qui est d'Antoine Brumel et qui a été chantre à la cathédrale de Chartres au XVIe.
Autrement dit, votre CD, c'est aussi, quelque part, soyons chauvins, un hommage aux gens qui... habitant ou travaillant à Chartres, composer en même temps de la musique.
Oui, c'est-à-dire que c'est comme pour les concerts ou les présentations, je sais que j'insiste beaucoup, c'est pas simple, mais j'insiste toujours pour qu'on présente les instruments, par exemple, dans la crypte de la cathédrale de Chartres. Je crois que c'est important que les élèves puissent découvrir ça. C'est important que les gens découvrent qu'à Chartres, dans la région chartraine, il y avait des compositeurs. Mais heureusement, il n'y avait pas que des compositeurs à Chartres, sinon ça aurait été très limité. Il y a bien sûr d'autres compositeurs. Mais il me paraît important de faire découvrir, en profiter, pour faire découvrir que dans la région chartraine, il y avait des compositeurs, certains étant d'ailleurs en liaison avec la cathédrale. Pierre de Dreux était quand même celui qui a offert la rose sud et l'ensemble des vitraux du transept sud. C'est pas rien.
Oui. Alors, je rappelle quand même, pour revenir sur ce que vous venez de dire, je rappelle quand même que régulièrement, l'instrumentarium de Chartres présente les instruments, la plupart du temps avec projection sur grand écran de l'instrument, parce que quand l'instrument joue, on ne le voit pas forcément très bien, et que vous-même, c'est souvent vous qui présentez l'instrument et l'œuvre, rapidement, quoi, disons.
Voilà. Oui, oui, dans les concerts...
D'où l'allusion au fait que vous vous présentez souvent dans la crypte de la cathédrale, c'est-à-dire la crypte du XIIe siècle.
Voilà. Voilà. Et pour les élèves, c'est important. En plus, une sonorité, il n'y a pas besoin de sono, comme on dit hein, aujourd'hui. Et les musiciens sont complètement en direct avec les élèves.
Dans ce cadre-là. Alors, je rappelle simplement que l'instrumentarium de Chartres vient de faire paraître son premier CD, qui est vendu 15 euros et qui est en vente un peu partout.
Dans Chartres,
oui. Dans Chartres et autour.
Et autour, bien sûr, oui. Et qu'on fera une dédicace spéciale avec Xavier Terraza et une musicienne le 21 janvier à l'Esperluette.
Alors, le 21 janvier à l'Esperluette, à quelle heure ?
Dans l'après-midi. Et pour l'instant, on est en train d'essayer d'imaginer le samedi matin. Peut-être le marché, peut-être dans la rue, tout simplement.
Enfin, tout dépendra du temps.
Absolument.
Alors, je reviens à Xavier Terraza, qui est le directeur artistique de l'instrumentarium de Chartres. Parmi tous ces compositeurs-là, dont certains sont anonymes et pour cause, puisqu'on ne sait pas exactement qui a composé ça. Mais une chose me frappe, il y a des gens qui ont écrit pour la musique et qui ne sont pas musiciens eux-mêmes.
Vous pensez à qui ?
Fulbert. Bon, Fulbert était quand même, avant tout, il était évêque, si j'ose dire.
Oui, mais avant d'être évêque, il était surtout homme de science, philosophe, et on lui attribue, alors c'est toujours la difficulté avec les grands personnages, de savoir s'ils ont réellement écrit ou pas les hymnes ou antiennes, etc., qu'on leur attribue. Bon, ça c'est un peu flou sur Fulbert. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les manuscrits, effectivement, il y a marqué à chaque fois Fulbertus, etc., donc attribué en tout cas à Fulbert de Chartres.
Et Pierre Mauclerc de Dreux non plus, il n'était pas, pas musicien. Ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu ce qu'on appellerait aujourd'hui des musiciens professionnels.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle surtout des trouvères. C'est toute la tradition des troubadours, des trouvères. C'est-à-dire ce sont des aristocrates qui sont férus de poésie et qui inventent aussi de la musique. Voilà, qui la jouent peut-être eux-mêmes ou qui la font jouer à leur jongleur, justement. Le métier de musicien lui-même, juste instrumentiste, c'est assez tardif hein, pour le Moyen-Âge. On entendra une pièce à la fin, effectivement, où là, on a clairement des bandes ménétrières, on est à la fin du Moyen-Âge, mais sinon, effectivement, non, ce sont des gens qui sont versés dans la musique, donc certainement musiciens, non, enfin, il n'y a pas d'antinomie, vous voyez, c'est pas leur métier, mais c'est leur passion. Il n'y avait pas la télé, je rappelle, au Moyen-Âge.
Et on n'a pas gardé d'enregistrement.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fallait bien faire quelque chose de ces soirées, voilà, exactement.
Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un côté humain sous ses multiples aspects, c'est-à-dire il y a des chansons d'amour avec Trouvert, il y a des chansons, des hymnes religieux, il y a des danses. C'est quand même tout un monde de distraction ou je ne sais pas, tout un monde qui, à travers ces instruments, peut revivre.
Oui, c'est toute l'idée, hein, d'essayer d'imaginer ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Évidemment, c'est une acception un peu large, mais par exemple dans le jeu parti que citait André tout à l'heure, donc où Jean Ier de Dreux échange, hein, c'est vraiment, on appellerait ça aujourd'hui une battle en rap. Hein, c'est exactement la même chose. Il échange avec Bernard de La Ferté. Il dit. D'après toi, qu'est-ce que tu penses qu'il soit meilleur ? Est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'argent ou est-ce qu'il vaut mieux être un proche chevalier ? Et donc il y a toute une discussion comme ça qui se développe de strophe en strophe. Donc ça raconte beaucoup de choses effectivement sur la société et c'est terriblement d'actualité si on a envie.
Alors, écoutez, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Je rappelle que votre CD vient de sortir, votre premier enregistrement à 15 euros, il est vendu 15 euros.
Seulement.
Alors j'espère que...
Non, j'ai dit seulement. C'est l'aspect un peu positif.
J'espère que vous serez nombreux à vouloir l'écouter. Et je vous remercie de votre attention. Au revoir.
Et nous allons avoir l'occasion, j'y tiens, d'entendre Sandy Griot à la trompette, qui est une musicienne que nous avions invitée et qui est la spécialiste de ce type de trompette à coulisses de la Renaissance. Merci.